ici à la Maison des Hommes et des Techniques où nous sommes très heureux d'accueillir l'exposition de Cyril Dupont, qui est une exposition de photographie qui laisse une large place aux travailleurs.
Bonjour, vous avez jusqu'au 10 novembre pour vous rendre à la Maison des Hommes et des Techniques de Nantes pour apprécier le travail photographique de Cyril Dupont. Élise Nicole, coordinatrice de la Maison des Hommes et des Techniques.
Nous, tout de suite, on a été frappés par la beauté de ces photos et la large place laissée aux travailleurs et aux gestes liés à son travail. C'est pas un sujet facile, le monde du travail. Et là, nous, en fait, on a beaucoup apprécié ce qui était proposé. Donc, il y a eu les confinements, déconfinements, reconfinements, donc ça a un petit peu retardé nos affaires. Mais enfin, nous avons réussi et donc on est très très content d'accueillir cette exposition aujourd'hui.
Cyril, avant que nous fassions connaissance, donc vous avez frappé la porte de la MHT, pourquoi ?
En fait, il me semblait que le sujet sur le travail était plutôt dans les clous.
Cyril Dupont.
Des sujets traités par la MHT. Pour tout vous dire, initialement, il était plus axé sur la partie industrielle uniquement, parce que j'avais comme premier projet, au moment où on a été confinés, l'idée de faire un travail photo dans la région sur la continuité industrielle pendant la crise. Il s'avère que je me suis fait recaler à peu près toutes les portes auxquelles j'ai frappé, si ce n'est quelques reportages que j'ai pu faire avec Framatome, mais ce n'était pas dans la région. Et donc j'ai souhaité présenter le travail dans son ensemble à travers la construction, les routes, l'énergie et les transports qui sont les sujets qu'on va retrouver ici, en allant fouiller dans mes archives et en actualisant avec des sujets plus récents.
Si vous avez été recalé dans de nombreux endroits, c'est par rapport à la Covid ou c'est le sujet qui
n'intéressait
pas ?
En fait, quand j'appelais les entreprises de la région et que je les sollicitais pour réaliser des reportages, l'idée, ce n'était pas de faire un seul reportage, c'était de voir comment eux, dans leur réorganisation liée au Covid, sur toute la partie production, distribution, commercialisation, quand c'était des boîtes qui vendaient à l'international, comment elles avaient parvenu à intégrer à leur outil de production les nouvelles contraintes, que ce soit les problèmes d'approvisionnement, parce que là, il y avait des problèmes d'approvisionnement logistique, les problèmes sanitaires, donc le fait que les gars intègrent à leur équipement classique de travail tous les équipements de sécurité. Et en fait, je pense que c'était trop contraignant pour les boîtes et qu'elles n'avaient pas nécessairement envie de communiquer sur la façon dont elles travaillaient en mode plus ou moins dégradé. Et c'est pour ça que je n'ai pas réussi à passer le barrage de l'accueil, quoi.
Qu'est-ce qui vous a amené à la photographie ? On commence à faire un petit peu connaissance avant de découvrir votre travail.
D'accord. Alors la photo, ce n'est pas un sujet très récent chez moi. J'ai dû m'intéresser à la photo quand j'avais une quinzaine d'années parce que quand j'avais 15 ans, ça représentait pour moi le métier idéal. C'est-à-dire que c'était un métier qu'on faisait avec très peu de choses. Il suffisait d'avoir un appareil photo, une idée et on pouvait commencer à photographier. Ça ne nécessitait pas de matériel compliqué, ça ne nécessitait pas d'équipe, ça ne nécessitait rien de particulier. Et surtout, la photo, c'était... Je ne me suis jamais imaginé photographe de studio. Pour moi, la photo, ça a toujours été un prétexte pour voyager et aller photographier des environnements qui ne m'étaient pas du tout familiers.
Mais vos premières expériences étaient sur des plateaux de télévision.
Alors, ma première expérience comme photographe pigiste, c'était pour le journal de la ville de Paris, pour qui je faisais des tout petits reportages photos. Et là-bas, j'ai rencontré un photographe qui était pigiste pour TF1, qui m'a dit « on cherche des pigistes chez TF1, est-ce que ça t'intéresse ?» Et je dis « volontiers ». C'est comme ça que je suis arrivé chez TF1, où j'ai passé 2 ans comme photographe de plateau. Donc faire des photos et des émissions et des coproductions de la chaîne. Et à l'époque, il y avait une presse télévision qui était assez puissante. Donc toutes les images qu'on réalisait étaient ensuite diffusées dans la presse TV pour parler des différents films coproduits et des émissions.
Quand on est photographe de plateau, on s'intéresse aux gens qui sont sur les plateaux ou autour des plateaux aussi, parce que ça peut avoir un rapport avec l'expo d'aujourd'hui.
Ouais, alors moi, à titre perso, j'étais beaucoup plus concentré sur le tournage ou l'émission que sur l'équipe qui pouvait graviter autour. Alors il y a toujours des images d'illustration qui sont faites sur l'équipe, comment ça fonctionne, mais c'est principalement les différentes scènes qui sont tournées qu'on doit photographier.
Vous avez toujours été indépendant ?
Chez TF1, j'étais salarié, ça a duré 2 ans. Et après, quand j'ai quitté TF1 pour rejoindre l'agence Gamma, alors c'était un statut un peu particulier dans les agences, on était indépendant, mais en contrat d'exclusivité avec l'agence. C'est-à-dire que notre travail ne peut être diffusé que par l'agence. Mais sinon, j'ai toujours été indépendant, oui.
Quand on est indépendant, on se sent libre, mais on s'interroge sur les lendemains.
D'abord, je ne me verrais plus du tout salarié. Enfin, c'est un truc que je n'ai jamais vraiment vécu. Et c'est des contraintes quotidiennes qui sont pour moi plus contraignantes que les emmerdements financiers qu'on a à gérer quand on est indépendant, si on met dans la balance. Après, c'est toujours pareil. L'indépendance, c'est un truc qui, en tant que photographe, nécessite un acharnement commercial, un acharnement auquel on n'est pas du tout préparé quand on se lance dans ce métier. Moi, je suis devenu photographe pour faire de la photo, pas pour faire du commercial. Et les premières années de ma vie, c'était plus faire du commercial que faire de la photo. Donc, voilà, faut enclencher la machine et puis après les choses se mettent en route. Après, on évolue en fonction des commandes, des clients qui nous font confiance et puis les choses s'organisent et se mettent en route. Mais il y a encore, enfin là, avec le Covid, donc en mars 2020, on s'en est quand même pris plein la gueule. Et il y a un moment où on s'est dit, mais est-ce que le modèle économique qui tient la route, est-ce qu'on va s'en sortir, est-ce que voilà. Et puis les choses se remettent petit à petit en place, on y voit un peu plus clair et ça repart. Mais ce qui est certain, enfin, dans mon activité photographique, je ne pourrais pas vivre uniquement sur le bouche à oreille. Le commercial est une étape fondamentale dans notre activité.
Et il y a le réseau aussi que vous avez constitué, et puis vous avez créé une agence.
Alors, à l'époque où j'étais chez Gamma, toute la production que je réalisais avec l'agence était diffusée vers la presse. Donc j'ai réalisé pour eux un certain nombre de sujets, notamment sur la pêche en Atlantique Nord et puis dans le bassin méditerranéen. Et quand ces reportages ont été terminés, j'ai quitté l'agence et je suis devenu photographe indépendant, enfin indépendant non rattaché à une agence. Et ça correspondait à l'époque où la presse commençait à aller moins bien. Et j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai commencé à travailler pour des agences de communication. Et c'est à ce moment-là que s'est enclenché toutes les commandes sur lesquelles j'ai pu travailler pour des entreprises et pour des institutions. Et ensuite est née l'idée de travailler en direct, non plus avec des agences, mais avec les entreprises, et de préférence avec des entreprises implantées à l'étranger, des entreprises françaises implantées à l'étranger, parce que, un, ça me permettait de revoyager, et deux, ça me permettait de resolliciter des photographes qui étaient chez Gamma, qui étaient indépendants, que j'avais rencontrés à l'étranger, et de les refaire réintervenir sur des travaux de commande pour des entreprises. Et le réseau, il s'est constitué comme ça, petit à petit, avec d'anciens photographes que je connaissais et des nouveaux qui ont intégré l'aventure. Il y a eu un truc fondamental dans notre développement. En fait, il y a plusieurs zones géographiques dans lesquelles on est allé s'implanter et dans lesquelles on est allé fouiner grâce à nos clients, parce qu'on a eu une première commande. Par exemple, à Hong Kong, la première fois que je suis allé à Hong Kong, c'était pour une commande d'un constructeur français. Je devais faire un suivi de chantier, le truc a duré 2 ans et on s'est rendu compte que j'allais pas y aller tous les 15 jours. Donc on a mis en place une équipe locale qui a fait ce suivi de chantier pour le compte de notre client français. Et puis qui ensuite a travaillé pour d'autres clients français qui étaient implantés localement. Et on a fait ça à plusieurs endroits différents, en Amérique du Nord, aux États-Unis, on l'a fait en Afrique de l'Ouest. On a essayé dans les zones géographiques qu'on avait identifiées comme ayant du potentiel de créer des petites équipes locales qui pouvaient intervenir pour plusieurs clients.
Quand vous travaillez pour ces grandes entreprises, sur des grands chantiers, vous mettez en valeur une certaine esthétique. Donc ça permet à l'entreprise de communiquer une bonne image. Toute la difficulté, c'est que parfois ou toujours, c'est du travail pénible. Comment on arrive à le traduire ?
Je vous remercie, elle est facile celle-là. Alors les photos qui sont présentées ici ne sont pas des travaux de commande, ne sont pas des photos qui ont été réalisées pour des entreprises et qui sont exposées. Ce sont vraiment des photos qui ont été réalisées dans un cadre personnel sur ces différents sujets, l'industrie, le travail. Quand j'interviens pour une entreprise, donc le but étant d'alimenter ces outils de communication, que ce soit le site internet, le rapport d'activité, oui, il faut rendre les choses esthétiques. Oui, le travail est pénible. Alors, pour être tout à fait honnête, quand je suis sur un travail de commande, je ne me pose jamais la question de savoir si le fait que la photo soit esthétique annule le fait que le travail soit pénible. Moi, j'y vais en essayant de sortir la photo la plus jolie possible, quelle que soit la dureté du métier.
Moi, ce que j'ai ressenti sur les photos, ça a plutôt été...
Élise Nicole.
Dans les photos de Cyril, on a l'impression d'accompagner les gens, en fait. Il y a un côté très immersif. Alors, je pense qu'il y a des méthodes aussi de traitement de la photo qui accentuent cet effet. Mais moi, j'ai trouvé que ce qui était intéressant, effectivement, c'est qu'on a l'impression d'être sur le chantier avec les travailleurs. Et du coup, c'est un aspect de ce travail. Effectivement, elles sont très esthétiques, mais il y a aussi une impression de, je ne sais pas si on peut dire de camaraderie, mais il y a une immersion qui se fait pour la personne qui les regarde.
Elle est chapitrée, cette exposition, mais il y a un sens de circulation.
On avait commencé par la partie construction. Ensuite, il y a la partie route, d'infrastructure routière. Il y a la partie énergie, transport, et puis on finit sur la partie industrielle. La partie industrie, c'est une petite série de photos qui a été réalisée au Creusot, chez Framatome. C'est une fonderie gigantesque dans laquelle on fabrique des pièces hors normes.
Un petit mot sur l'expo ?
Moi, j'ai rien de particulier à commenter. Enfin, j'ai trouvé que c'était un beau sujet de photographie. Enfin, moi, ça m'intéresse depuis longtemps parce que mon papa est inspecteur du travail. Donc, il a fait beaucoup de photos de chantier pour des raisons autres. Mais du coup, je suis habituée à voir des photos des travailleurs, en fait. Et c'est aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je trouve effectivement que là, ils sont bien mis en valeur. Et on se faisait la réflexion avec ma mère que ça aurait été intéressant de connaître sur certaines photos les conditions, par exemple, climatiques. Voilà, parfois, on se dit, si ça se trouve, ils sont en train de tout simplement mourir de chaud sous leur casque, ce qui est souvent le cas. Mais j'imagine que, de toute façon, il s'agit de juste photos et de vraiment capter le truc à travers les photos. Mais en tout cas, c'était très intéressant. On est venu ici un peu par hasard, donc belle surprise.
Fiona, votre papa prenait des photos en noir et blanc, couleur ?
Ah non, c'était en couleur et c'était vraiment dans le cadre du travail.
Si elles avaient été en noir et blanc, ces photos ?
Moi, j'ai toujours préféré les photos en couleur et je trouve aussi, dans ce cadre-là, c'est hyper intéressant, notamment sur la série de photos. Je ne sais pas exactement comment nommer ce lieu, mais avec des tenues de travailleurs qui sont aussi belles, enfin, qu'on peut trouver très esthétiques. Et non, j'aime autant que ce soit en couleur, avec les tenues de travailleurs qu'on connaît, les gilets orange, jaune, enfin, c'est aussi parlant, quoi. Donc j'aime autant que ce soit en couleur.
Vous avez le droit à une question.
Qu'est-ce qui vous a fait aller vers ce sujet-là en particulier, si ce n'est pas trop indiscret
Le sujet du travail, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps à titre perso. Ce n'est pas nécessairement des images, des photos de commandes. Il y a un truc qui est pour moi intéressant dans le travail, indépendamment du métier à proprement parler, c'est que quand on photographie un métier, on va photographier un mode de vie, et le mode de vie d'un pêcheur ou d'un routier n'est pas du tout le même qu'un, je sais pas quoi, moi, qu'un chorégraphe, qu'un danseur ou qu'un violoniste. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et quand Élise disait, c'est un peu immersif, on a l'impression d'être avec les ouvriers, les personnes photographiées, c'est vrai que je passe vachement de temps sur les chantiers sans faire de photos du tout. Et quand j'ai fait des campagnes de pêche, quand on partait de l'Orient en Atlantique Nord, les premiers jours, je ne faisais pas une seule photo. En général, j'étais bizuté. Donc je sortais du port de l'Orient, j'étais ivre mort. Et après, j'avais les 3 jours de navigation jusqu'au lieu de pêche pour dessouler. Et après, je commençais à faire des photos seulement. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a souvent un moment comme ça d'adaptation où on apprend à discuter, à se connaître. Voilà. Et puis il y a aussi dans les personnes photographiées, il y a des gens dont je ne parle pas du tout la langue. Ils ne parlent pas anglais. Je parle pas pakistanais, machin, etc., etc. Donc, faut que ça se passe autrement. Donc, voilà, je les suis, je les observe, et puis tout d'un coup, je commence à faire des photos et le truc se met en route. Il y a aussi des moments où ça donne strictement rien, c'est-à-dire que on n'y arrive pas. Donc voilà, on fait pas.
Il y a des photos, il y a des très beaux regards, pas forcément en direction du photographe, mais des regards entre eux, moments de, effectivement, des moments un peu suspendus, et c'est très joli. Ouais.
C'est du numérique.
Ouais.
Le fait que vous puissiez tirer 10 000 photos pour en sélectionner une, est-ce que ça facilite ?
Ah, ça joue, le fait de faire énormément de photos ratées, il ne faut quand même pas se cacher de la réalité. À l'époque où j'ai démarré, c'était de la photo argentique, et donc on faisait gaffe au nombre de bobines qu'on allait utiliser et donc développer. Le fait de passer au numérique, c'est fabuleux, parce qu'on essaye, on fait des trucs, on rate, on recommence, et ce qui ne nous plaît pas, on ne le garde pas, et puis voilà.
Mais les moins pensés en amont ?
Vous essayez de me dire que je suis devenu débile quand je suis passé au numérique, c'est ça ?
Non, c'est une question.
Ah, je ne vous connais pas, vous êtes agréable. Non, je n'avais pas le sentiment de réfléchir quand je faisais de l'argentique, si vous voulez que je vous rassure. Non, je ne sais pas répondre à cette question. Moins réfléchi, peut-être. Mais au moins, on essaye de faire des choses. Quoi. Enfin, voilà. Mais par contre, sur le numérique à proprement parler, la simplification de la post-production. Avant, quand on faisait une photo, on ne faisait pas la photo en fonction de la lumière telle qu'elle était au moment où on faisait de la photo. On faisait la photo en fonction du travail que le tireur avait à faire. C'est-à-dire qu'on se disait, pour qu'il obtienne le résultat final que je souhaite, il faut qu'au moment de la prise de vue, je sous-expose ou je surexpose la photo. En numérique, c'est très différent, parce que quand on fait les photos dans un format brut qui s'appelle le RAW, essentiellement des fichiers RAW, on a une très grande latitude au moment de la post-production entre les basses lumières et les hautes lumières, et on peut récupérer beaucoup de choses. Donc ça a considérablement changé la façon dont on fait nos réglages au moment où on fait les photographies. Après, dans la post-production, le fait de ne plus avoir à passer par un laboratoire et de pouvoir faire en direct à notre sauce avec les contrastes et le rendu de couleur qui nous convient, oui, ça donne une marge de manœuvre qui est absolument incroyable. Et puis après, dans le stockage et dans l'archivage et dans l'intégration des données aux images, oui, le numérique, ça a permis un saut considérable. Et je ne serais pas un grand fan du retour en arrière.
Juste une petite question. Est-ce que quand tu fais tes photos, tu veux aussi témoigner du monde tel qu'il va aujourd'hui ? Est-ce que tu as un discours un peu plus sociétal ? Je pense notamment aux photos où on voit des constructions d'énormes routes au milieu de nulle part. Clairement, c'est nulle part. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de témoigner d'une société ? Ça paraît un peu ubuesque.
Alors moi, il y a un autre sujet qui me taraude et sur lequel je bosse depuis longtemps, qui est la densification des villes et les mégalopoles. Sur tout ce qui est construction des infrastructures, donc des infrastructures titanesques, l'accueil de plus en plus de monde, et donc tout ce que ça engendre en termes de création de logements, de création d'infrastructures médicales, d'écoles, de transports, et les routes. Il y a des tas de zones géographiques dans le monde où la route est le lien, le trait d'union essentiel entre deux villes pour les approvisionnements. Voilà, donc les routes, ça fait partie des sujets infrastructures importants sur lesquels je bosse. Ouais. Après, je n'ai pas le sentiment de porter un jugement sur le fait que ce soit bien ou pas bien. Je photographie les choses en voyant la façon dont elles se développent. Pendant très longtemps, on a mis en avant le fait qu'il fallait densifier la ville pour éviter justement d'appauvrir la ressource, parce que plus on concentre de monde au même endroit, moins ça nécessite de transport sur des zones qui sont plus petites. Donc voilà, c'est tous ces sujets-là que je photographie. Et sur la ville, il y a quand même quelques lieux dans lesquels je suis allé assez régulièrement et dans lesquels j'adore aller. En termes de développement, c'est évidemment au Moyen-Orient, il y a des constructions, des villes au milieu du désert. C'est des trucs qui sont absolument hallucinants à voir. Puis il y a l'Asie. L'Asie avec des villes comme Hong Kong, Kuala Lumpur, qui sont absolument gigantesques, qui se développent à vitesse grand V et qui sont extrêmement avant-gardistes. Et il y a une ville qui est assez remarquable dans sa gestion de la ressource, c'est Singapour, qui fait en matière de recherche et développement énormément de choses pour essayer de limiter l'impact sur la consommation d'eau. Donc comment ils arrivent à gérer la ressource en eau et sur les transports. Donc il y a des sujets qui m'intéressent. Après, si on prend l'exemple de cette photo, cette route-là, c'est justement une énorme infrastructure routière qu'ils sont en train de faire au Canada pour traverser le Canada d'est en ouest, parce qu'ils ont des convois de camions qui permettent d'approvisionner tout le pays en marchandises, avec en plus des contraintes fortes au niveau météo, c'est-à-dire que des grosses différences de température entre l'hiver et l'été. Donc il faut que ce soit des routes qui résistent à ça. Et ça, c'est un problème qu'on retrouve au Moyen-Orient avec des chaleurs absolument dantesques l'été, et où les enrobés ne résisteraient pas si on avait installé, enfin posé les mêmes que ceux qu'on a chez nous. Donc ça fait partie des sujets qu'ils doivent traiter pour que les infrastructures résistent. Donc il y a le climat dont parlait la jeune femme tout à l'heure, la chaleur dans laquelle travaillent les ouvriers, le climat auquel on est confronté et tout. C'est vrai que c'est des choses qui sont inhérentes aux différents métiers que j'ai pu photographier.
Alors je ne sais pas si c'est les dégâts, que peuvent faire.
Alors moi, encore une fois, j'essaye de ne pas avoir le regard dégâts, pas dégâts. Ils construisent une route qui va relier différentes villes pour approvisionner en nourriture, enfin tout ce qu'on veut, ces différentes villes. Donc il faut la construire, cette route. Il y a beaucoup de pays dans lesquels il n'y a pas de transport type le train, type toutes ces choses-là. Et donc la route est le seul moyen. Eux, au Canada, typiquement, la route est une des seules infrastructures, quand on est au milieu de nulle part, qui permet d'aller du point A au point B. Donc ils sont contraints d'en construire. Après, il y a des sujets en termes de développement sur lesquels je suis plus dubitatif. C'est toute la création de polders et de villes sur la mer, qui là, enfin, dans ce que j'ai pu en voir, créer des dégâts et sur l'environnement et sur le transport de matières premières, que ce soit du sable et tout. Donc là, c'est beaucoup plus impactant. Enfin, en tous les cas, c'est ce que j'ai pu voir. Mais le truc auquel on est confronté, c'est qu'il y a des tas de moments où on se dit que faire marche arrière est impossible. Donc comment on fait évoluer les choses pour essayer d'endiguer un espèce de phénomène de développement galopant sans impacter le fait que, malgré tout, la moitié de la population mondiale, elle aspire qu'à un truc, c'est bouffer tous les jours. Et donc, pour bouffer tous les jours, il lui faut des infrastructures, il lui faut lui permettre d'accéder à la ressource, et toutes ces choses-là. L'Afrique, elle est traversée par des routes dont ils ont fondamentalement besoin, parce que sinon, il ne se passe rien. Alors on peut voir, quand ils construisent cette route, le fait qu'on amoche le paysage. Là, on est au Canada, ce n'est pas nécessairement les mêmes enjeux qu'en Afrique, mais la priorité en Afrique, c'est quoi? C'est de ne pas amocher le paysage ou c'est de faire que ce qui est pêché à Saint-Louis, ça peut être vendu à Dakar? C'est ça le truc, hein.
Nous allons à présent, toujours en compagnie d'Élise Nicole, nous focaliser sur une série de photos de Cyril Dupont exposées à la Maison des Hommes et des Techniques de Nantes.
Il y a plusieurs photos qui sont prises en hauteur sur la construction d'un immeuble, visiblement. Alors là, je ne sais pas à combien de mètres de hauteur tu étais pour faire cette photo, mais tu te mets dans des situations un peu extrêmes quand même, des fois.
Les chantiers sont hyper sécurisés, donc on voit un ouvrier sur un chantier de construction d'immeuble qui est en train de faire du ferraillage. Le ferraillage, c'est l'assemblage de toutes les tiges en fer qui sont fixées les unes entre elles avec des fils de fer et au milieu desquelles est ensuite coulé le béton qui va former la paroi de l'immeuble. Et donc là, on était sur les derniers étages de l'immeuble, donc je suis tout en haut avec l'ouvrier et il y a au premier plan la partie ferraillage et le gars en train d'assembler avec ses fils de fer au second plan et puis il y a la ville derrière. Mais en fait, je risquais absolument rien parce qu'on ne le voit pas, mais il devait y avoir autour de moi une barrière ou un truc qui faisait que je ne pouvais pas tomber. Et puis, je ne suis pas tout seul. Il y a des gars autour de moi. Donc, les zones sont sécurisées. Hein. Il n'y a pas de danger particulier. Le seul truc qu'il puisse y avoir, c'est l'appréhension si on a le vertige. Mais bon, en l'occurrence, je n'ai pas ce problème, donc ça va. Mais il n'y a pas de photos dans lesquelles je me sois mis en danger.
L'ouvrier est en mouvement.
Oui.
Quelle ouverture, alors, pour que ce soit pas fou.
En vitesse d'obturation, en général, sur ce type d'image, c'est aux alentours du 250e de seconde. Et puis là, en ouverture, je ne me souviens pas, mais enfin, en général, c'est ça comme vitesse. Les personnes qui sont sur ces photos ne sont pas des photos posées, jamais. Ils sont toujours en train de travailler. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est ça qui est parfois un peu long, c'est que comme ils me voient arriver sans avoir été nécessairement prévenu, ben, y a une période d'acclimatation pendant laquelle parfois je ne fais pas du tout de photos. Et puis j'enclenche les choses quand je sens que c'est faisable. Mais en général, ça se passe bien et c'est très rare que les gens soient réticents à ce qu'on les montre dans leur environnement professionnel. Si on ne les fait pas poser, ils font leur truc dans leur coin, moi je fais le mien et puis voilà.
Discuter sur un chantier, c'est travailler?
Ah bah oui, sur des chantiers titanesques comme ça, ils sont contraints de discuter, les mecs.
Donc là, on a un groupe?
On a un groupe d'ouvriers devant un tunnelier sur une construction de station de métro. Tout est tellement titanesque, l'articulation du chantier est tellement minutieuse et précise qu'ils passent leur temps à discuter de tous les emmerdements qu'ils ont eus et qu'ils n'avaient pas imaginés. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une pièce qui, dans le tunnelier, va être faussée, donc il faut la changer. Mais comment on la change? Parce que voilà. Et puis la sécurité, et ça, c'est très étonnant. Quelles que soient les zones géographiques dans lesquelles j'ai fait des images, la sécurité sur les chantiers, j'ai l'impression qu'elle s'est considérablement améliorée, mais en bien, en 15 ans. Et maintenant, il y a très peu de chantiers où les gars n'ont pas les équipements de sécurité, les tenues.
On voit bien les proportions entre l'outil et l'être humain.
Ah, mais le fonctionnement d'un tunnelier, c'est un truc fabuleux à voir. J'ai eu la chance d'être dans un tunnelier pendant qu'il était en activité. Donc il y a toute la partie, la tête, là, qui va faire le forage. À travers des trous qui se trouvent dans la tête, les gravats et les pierres sont aspirés et vont être éjectés sur un tapis roulant qui se trouve à l'arrière du train que le tunnelier forme. Et parallèlement à ça, sur des constructions, alors pas sur des ouvrages comme celui-ci, mais sur des constructions de tunnels pour les voitures, par exemple, l'avant du tunnelier creuse, les gravats sont éjectés par l'arrière du tunnelier, et au fur et à mesure que le tunnelier avance, les plaques de béton précontraint sont posées, et le tunnel se fait. C'est incroyable à voir.
Là, on est à Saint-Nazaire, vu d'hélicoptère. Vu à l'intérieur.
D'un remorqueur. En fait, les premières images, là, c'est un méthanier qu'on était allé chercher en hélico au large de Saint-Nazaire, qui va passer le pont de Saint-Nazaire. L'hélico, c'est pour un photographe un moyen fabuleux, qui n'a pas la cote en ce moment pour des raisons environnementales, mais sur le plan photographique, c'est un outil génial. Et surtout, ce qu'il faut mettre en avant quand on fait des photos aériennes en hélico, c'est le travail du pilote, parce que, en fait, c'est le pilote qui fait une grosse partie du boulot, parce que s'il a l'habitude de travailler avec des photographes et qu'on lui dit « est-ce que tu peux monter, est-ce que tu peux descendre, est-ce que tu peux aller chercher un grand angle, un plan plus serré, etc. etc. », il va le faire extrêmement facilement. Donc ça, c'est hyper agréable de bosser avec un pilote qui a l'habitude. Les quatre premières images sont des images de méthanier, donc passage du pont de Saint-Nazaire, l'arrivée, et puis l'arrivée au terminal méthanier à proprement parler, où seront faites les manœuvres de déchargement du méthane. Alors c'est du GNL, du gaz naturel liquéfié. Le gaz naturel liquéfié est transporté dans les bateaux à l'état liquide et regazéifié en sortie. Et c'est le process qui est en cours là à Saint-Nazaire. Et en fait, la seconde partie, c'est au terminal conteneur toujours à Montoire. C'est l'arrivée d'un bateau avec le travail des lamaneurs. Les lamaneurs sont les marins qui sont à bord des petites embarcations, qui récupèrent les amarres qui leur sont lancées du bateau et qui vont amarrer le navire à quai. Et les deux dernières images, c'est le boulot que font les remorqueurs, c'est-à-dire que ils poussent le bateau à quai, mais ils le poussent physiquement, c'est-à-dire qu'ils se mettent au contact de la coque et ils vont le pousser jusqu'à ce qu'il soit à quai. Et ça, j'avais fait une série de reportages avec la boîte de remorquage qui se trouve à Saint-Nazaire.
Les deux dernières sont prises avec les éclairages et l'atmosphère d'un port la nuit.
Absolument.
Et les reflets dans l'eau. Alors moi, je suis attiré par une photo, mais je ne sais pas pourquoi. Le métanier pris de face, tout est aplati.
En fait, ça typiquement, c'est vraiment le genre de photo qu'on ne peut faire qu'en hélicoptère. Parce qu'au drone, d'abord, on était trop loin pour que le drone aille jusqu'à cette zone. Ensuite, pour qu'on ait l'impression que le métanier nous arrive en pleine poire, il faut que moi, je sois au téléobjectif, parce que l'hélico ne peut quand même pas se coller au bateau, qui avance malgré tout assez vite. Et là, en fait, pour que je fasse cette photo, l'hélicoptère était en stationnaire devant le bateau et avançait en crabe au même temps que le bateau avançait. Donc il n'y a vraiment qu'avec un hélico qu'on peut faire ce genre de photo. Ouais.
Ça donne une sorte d'illusion d'optique sur la forme même du bateau. Il ressemble presque plus à une bouée qu'à un bateau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Cette série, on est vraiment dans l'industrie de pièces de très grande taille réalisées au Creusot. Le Creusot, c'est une fonderie qui est absolument remarquable à tout point de vue en termes de compétences, en termes de savoir-faire, en termes de dimensions. Les fours dans lesquels sont chauffées ces pièces avant d'être travaillées sont absolument gigantesques. Quand les gars ouvrent le four, ils font évacuer la zone parce que la diffusion de la chaleur est telle que n'importe quel individu normal fondrait. Donc c'est vraiment des conditions de travail qui sont tout à fait hors normes. Sur la première photo, on voit un grand entrepôt industriel qui pourrait ressembler, pour ceux qui connaissent Nantes, au nef du Bigeon, sur lequel une pièce vient d'être sortie du four. La dimension de la pièce, je pense qu'elle fait 1,50 m de haut sur 2 m de haut sur une dizaine de mètres de profondeur. Elle a été chauffée dans le four et les deux personnes qui sont devant finissent de la travailler avec un outil qui est un espèce de chalumeau qui permet de faire la coupe finale de la pièce. Et les deux personnes, en fait, ils travaillent par un groupe de deux. Ils ont des combinaisons qui ressemblent à des combinaisons de vulcanologues, comme si elles étaient en amiante. Alors, elles ne sont plus en amiante maintenant, mais qui les protègent des projections de flammes. Et ils se relaient jusqu'à ce que la coupe soit complètement faite pour pas que la pièce refroidisse. Le seul truc, c'est qu'ils sont en contact d'une chaleur intense, donc ils sont obligés de se relayer pour boire, en fait, parce qu'ils perdent des litres d'eau.
Vous êtes à combien de mètres ?
Je suis loin, parce que j'ai
pas que les appareils fondent.
Ouais, voilà, ouais. Puis moi, il faut pas que je fonde, quoi. C'est pas...
Là, elle est incroyable. On a quatre personnes, deux qui sont en train de découper la pièce, et ces quatre personnes sont cachées pour se protéger, visiblement, des projections, des étincelles. Ça donne l'impression de grande vulnérabilité parce qu'en fait, on a l'impression qu'elles ne sont absolument pas protégées. On en voit un avec plein d'étincelles qui lui ricochent sur le casque. Il s'en prend plein la figure. Elle est assez incroyable. Et puis, on a sur toute cette série des jeux autour des lumières, autour des couleurs de fumée différentes. Des fois, elles sont jaunes, des fois, elles sont oranges. C'est des photos qui sont très dynamiques.
Et puis alors, juste à côté, un gros plan sur les casques de protection.
Alors ça, ce sont les deux personnes qui font l'opération d'oxycoupage. Il me semble que c'est ça, j'oublie toujours le terme technique en fait. C'est de l'oxygène pur qui permet de faire la découpe. Ils viennent de finir la pièce, donc ils ont relevé leur casque de protection. Ils viennent de boire et là, ils sont en train de parler de la prochaine pièce qui arrive et qui vont devoir travailler comme la précédente. Donc voilà, mais là, c'est un petit moment de pause. C'est un vrai travail d'équipe parce qu'ils se relaient. Et sur la photo précédente, on voit les deux qui sont en fait les vieux de la vieille, qui sont en train de guider les petits nouveaux, les jeunes recrues, dans le travail et qui leur expliquent comment il faut faire quand elles ont des interrogations. C'est des métiers qui nécessitent des compétences hors normes. D'abord, ce n'est pas des métiers qu'on va apprendre à l'école, c'est un métier qu'on va apprendre sur le terrain et qui nécessite une précision extrême et puis de la résistance, enfin tout simplement de la résistance physique parce que c'est des métiers qui sont compliqués physiquement, hein. Il faut être capable de tenir.
Vous avez filtré la transpiration parce qu'il ne transpire pas ?
Non, j'ai rien filtré du tout, je sais pas, parce qu'en général, il crève de chaud, donc il dégouline.
Merci à Élise Nicole, à Cyril Dupont et à Fiona pour leur libre participation à ce programme. Vous avez bien noté que vous avez jusqu'au 10 novembre pour vous rendre à la Maison des Hommes et des Techniques de Nantes et apprécier l'exposition photographique de Cyril Dupont.